Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, en cette solennité de la Pentecôte, cette grande fête que nous recevons, nous nous réjouissons de recevoir, d'être renouvelés dans l'Esprit Saint qui, une fois de plus, renouvelle, raffermit son Église et ses membres. Mais voilà, l'Esprit Saint est un peu comme le grand inconnu de la Trinité. Si nous avons sans cesse les yeux fixés sur le Christ, et nous avons raison, si en allant au Christ nous voyons le Père et que nous avons une grande acuité dans le don qu'il nous fait du Fils, nous oublions bien souvent l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité qui est inséparable du Père et du Fils et qui agit sans cesse. Au Saint-Esprit, les Pères de l'Église ont attribué la sanctification du monde. Au Père, la création, au Fils, la rédemption, au Saint-Esprit, la sanctification. Livrons-nous à cette sanctification en regardant comment le Seigneur vient dans le monde par son Esprit et en voyant ensuite comment il agit en nous. D'abord, il vient dans le monde et dans l'Église. Dans le monde, vous le savez, le Saint-Esprit est venu tout simplement en le créant. Au début, au commencement du monde, dit la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est l'Esprit qui a créé le monde. C'est de l'Esprit de Dieu que tout est né. Et cette fête de la Pentecôte doit nous faire revenir à la source de toute création. C'est l'Esprit qui crée la matière. C'est l'Esprit qui crée. La matière n'est pas éternelle. Même les scientifiques ont fini par le savoir maintenant. Ils savent qu'elle aura une fin. Et ça les catastrophe, d'où ce discours toujours de plus en plus catastrophique sur les fins du monde. Nous savons, nous, qu'il y aura une fin à ce monde, que la matière n'est pas éternelle, et donc qu'il y a eu un commencement, puisque ce qui n'existera pas toujours n'a pas toujours existé. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui englobe et le début et la fin du monde. Cet Esprit est venu sans cesse vivifier le monde. Il est venu même chez les païens, pour leur faire se rendre compte qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux, de plus grand que la matière, qu'il devait y avoir des forces extra-mondaines. Il est venu, bien entendu, dans le peuple d'Abraham, qui préparait la venue du Messie, inspirant les pères, inspirant les prophètes, afin qu'ils disent de leur voix le Christ qui vient, afin qu'ils puissent reconnaître l'Esprit qui venait à eux, et pas seulement les choses qui se déroulaient. C'est grâce à cet Esprit que Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes et le dernier de ceux-ci, rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, reconnut le Seigneur venant à lui. Oui, c'est ce même Esprit qui l'a fait reconnaître le Christ, non pas ce cousin qu'il connaissait très bien, mais qui l'a fait reconnaître à travers les traces humaines du Christ, qui l'a fait reconnaître Dieu venant au monde, l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. C'est cet Esprit, enfin, qui nous a fait naître l'Église. L'Esprit Saint, venu ici, nous venons de le méditer, dans le bruit et le soudain bouleversement de la Pentecôte, manifesté comme par des langues de feu. Vous voyez la prudence de l'Écriture qui a dit « comme un bouleversement, comme des langues de feu ». On ne peut pas décrire complètement un phénomène mystique et la venue de l'Esprit-Saint, c'est ce qu'on en voit. Mais ne vous y fiez pas, ce n'est pas la seule fois que l'Église fut créée comme ça, d'un seul coup. L'Église a été créée comme un enfant, car l'Église, c'est le corps de Jésus. Et l'Église a été formée par l'Esprit-Saint dans le sein de Marie, d'abord dans l'intimité de cette rencontre, cœur à cœur, entre l'ange qui venait annoncer et donner à Marie la possibilité de recevoir l'Esprit Saint, et Marie qui le recevait dans son cœur. C'est déjà l'Esprit Saint qui fécondait le sein de Marie pour qu'elle engendre le Christ. C'est encore l'Esprit Saint qui a poussé la Vierge Marie à faire se mettre en route les disciples. Et vous le savez, c'est à Cana, alors même que tout paraît indiquer qu'elle devrait maintenant s'asseoir et arrêter de parler. L'Esprit Saint la pousse, malgré le refus initial du Christ, à lui demander de faire quelque chose pour le vin de Cana, pour renouveler ses noces, et elle dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». C'est l'Esprit Saint encore qui pousse Marie tout au long de sa vie à suivre son Fils, qui l'amène au pied de la croix, et qui, par une grâce miraculeuse du Saint-Esprit, l'a fait tenir debout au pied de la croix, dans la position déjà du ressuscité, de qui vit de la vie éternelle. Enfin, c'est au Cénacle que cette Église, fécondée dans le sein de Marie, grandit au milieu du peuple d'Israël, finit par être donnée au monde. C'est le sens de toutes ces langues que parlent les apôtres quand ils reçoivent l'Esprit Saint. Ils sont enfin le Messie attendu en Sion, a fini par naître, et maintenant de tous les peuples n'en a fait qu'un. Il peut parler toutes les langues, il est enfin venu parmi nous. Voilà cet esprit qui anime encore notre Église, venu ici pour assister à la Sainte Messe, à la présence du corps du Christ, le chef de l'Église. Sur cet autel, vous êtes les corps vivants, les membres de ce corps qui vit jusqu'à la fin des temps et dans l'espace, jusqu'à ce que ceux-ci finissent et soient assumés dans la gloire de Dieu. Voilà pour la venue du Christ, mais me direz-vous alors, quelle est son action? Comment va-t-il agir et comment allons-nous agir en lui? C'est très simple, vous vous souvenez de votre catéchisme. À la confirmation, vous avez reçu les sept dons, déployé en vous les sept dons de l'Esprit. Non pas que ce fût la première fois que vous receviez l'Esprit Saint, vous l'avez reçu au baptême, vous avez été baptisé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tous nous vivons de l'Esprit Saint dès notre baptême, et à chaque sacrement nous recevons et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Vous le savez tout à l'heure, en communion au corps, réellement et substantiellement présent du Christ, c'est dans l'Esprit de Dieu que vous le recevrez, ce don du Père dont il ne se sépare pas. Mais voilà, ce Saint-Esprit, il nous faut prier pour qu'il nous déploie en nous, qu'il rende extraordinaire le déploiement de ces sept dons. Je les vois vite et je les passe en revue, vous les connaissez. Il y en a trois qui fortifient notre volonté et quatre qui fortifient notre raison, les deux grandes facultés de l'homme. Les trois qui fortifient notre volonté, d'abord la force, puis la piété et la crainte de Dieu. La force pour nous affermir, pour nous établir comme chrétiens. Si vous pouvez dire que vous êtes chrétien, si vous pouvez porter une croix et le dire simplement dans ce monde qui vous déteste, dans ce monde qui ne comprend pas la spiritualité, dans ce monde qui hait les valeurs que nous portons et la morale que porte le Christ dans sa révélation, eh bien c'est que vous êtes tout simplement animé de la force du don du Saint-Esprit qui vous fait tenir debout et dire tout simplement « si, moi, je suis chrétien ». La piété qui vous fait courir, qui vous fait vous presser à la messe, qui vous fait vous presser au pied de l'autel, qui vous met à genoux dans votre chambre, qui vous pousse à prier, qui, quand lorsque vous passez devant une statue de la Vierge Marie, vous fait lever les yeux et rendre grâce. Bref, cet esprit qui fait de vous des êtres spirituels prêts à louer Dieu. La crainte de Dieu, enfin, un don tout à fait extraordinaire, que d'aucuns ne comprennent pas, croyant que nous aurions peur de Dieu, pauvres gens qu'ils sont. Non, nous n'avons pas peur de Dieu, nous n'avons pas peur d'un mal, mais nous craignons Dieu car nous craignons de le perdre. Pour qui a jamais connu un bien supérieur et l'amour lui-même, eh bien, c'est un sentiment de crainte énorme que de devoir peut-être un jour le perdre. Voilà la crainte de Dieu que nous inspire sa présence qui est tout et moi qui ne suis rien et qui ne le mérite pas. Comment ne pas craindre qu'il ne vienne pas à moi? Enfin, ou par ailleurs, il y a les quatre dons qui fortifient notre raison, l'intelligence, la science, le conseil et la sagesse. L'intelligence qui nous fait comprendre les choses de Dieu. Oui, mes bien chers frères, vous êtes capables de Dieu. Ce n'est pas parce que nos esprits sont limités, ce n'est pas parce que nous ne sommes que de pauvres humains que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Erreur orgueilleuse d'ailleurs de certains philosophes. Oui, le Seigneur nous donne la capacité de comprendre quelque chose de lui. Il nous a rendus conformes à sa propre intelligence afin que nous en saisissions quelque chose. Vous avez aussi le don de science qui vous permet de vous ordonner à Dieu, qui permet d'ordonner toutes vos connaissances à Dieu, car nous savons plein de choses, nous apprenons plein de choses, et pour beaucoup, cela les sépare de Dieu. Car en fait, toutes leurs connaissances ne sont qu'un fatras inordonné de choses qui les fait se perdre en fait. Qui n'a pas rencontré un jeune étudiant tout frais émoulu, même de terminal, qui a réfléchi sur trois trucs et qui se dit « Ah, alors je ne crois plus en Dieu ». Eh bien oui, le pauvre, parce qu'il a trop peu de science pour l'ordonner. La connaissance est une chose, mais il faut pouvoir tout mettre en ordre pour arriver à un but. Nous ne sommes pas des insensés, et le don de science nous permet d'ordonner toute notre vie, de mettre en relation toutes nos connaissances et tout ce que nous sommes pour arriver à là où nous allons. Ordonner notre intelligence à Dieu, c'est le don de science. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup vous en rapproche. C'est encore le don de conseil qu'il faut demander. Le don de conseil, c'est le don qui vous permet, à l'intérieur de vous-même, de discerner. De discerner, bien sûr, d'abord entre le bien et le mal, mais de discerner aussi le meilleur bien. Discerner ce que vous êtes appelé à faire. Discerner là où Dieu vous appelle, quelle est votre vocation intérieure. Et il s'agit d'un appel de tous les jours. Voilà ce don extraordinaire qui nous permet de voir clair et de dire « C'est là que je vais, voilà ce que j'ai choisi ». Enfin, et saint Thomas d'Aquin place ce don comme le summum de tous les dons de Dieu, c'est le don de sagesse qui nous donne de contempler Dieu, d'en jouir, de vraiment être avec lui, un don que vous devez réclamer ardemment. Alors, mes bien chers frères, alors que les chrétiens s'apprêtent une fois de plus à être renouvelés, il nous faut voir combien cet esprit agit dans l'Église. Dans l'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui anime sa charité, son espérance et sa foi. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse les chrétiens à œuvrer dans le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé les chrétiens à créer des hôpitaux, des orphelinats, à créer des mouroirs, des lieux où on accueillerait les malades de toutes sortes rejetés par le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à la charité de nous occuper des plus faibles, de ceux qui ne sont pas encore nés et de ceux qui sont prêts de mourir. Voilà pourquoi la pseudo-charité de ce monde, la pseudo-bonté de ce monde ne peut pas comprendre cette charité qui n'est que spirituelle et qui s'occupe profondément de l'esprit de ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à espérer contre toute espérance, alors que nous sommes au milieu d'un monde désespéré, triste et moche. C'est les chrétiens qui, joyeux d'aller à la messe, se disent « Mais le Christ vient, allons et sortons, habillons-nous de propre et de beau, faisons la fête, car le Seigneur vient. » C'est l'Esprit de Dieu qui vous anime en ce moment. Enfin, c'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse à manifester votre foi pour que le monde en jouisse également. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse, je ne sais pas combien nous sommes cette année, les 13 000, 14 000 pèlerins sur les routes de Chartres, qui vous pousse à prier avec eux et pour eux. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette foi inébranlable que le Seigneur va réaliser son plan divin de salut, qu'il vient et que c'est maintenant. Ainsi soit-il.